BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Thomas Schmel.
Il est midi, bienvenue à tous dans 60 minutes business, une heure d'actualité et BFM Business avec vous. On vous donne la parole à vous qui nous écrivez et à vous qui recrutez. Jean-Marc Daniel avec nous pour nous accompagner pendant hier. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Bienvenue à tous. À la une de l'actualité de ce vendredi, comment mettre l'Europe d'accord sur le plafonnement du prix du gaz? 15 pays favorables contre d'autres plus dépendants comme l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark. Les dirigeants doivent en débattre à Prague. Ce vendredi, ce sera notre focus. Les craintes de l'approvisionnement font peser de lourdes menaces sur l'Europe. Avertissement lancé par l'INSEE qui prévoit une stagnation du niveau de croissance. Pourtant, le taux de chômage ne va pas augmenter. On vous explique pourquoi. 30 billets par seconde, l'équivalent de 3 TGV vendus toutes les minutes. La SNCF a fait le plein pour les vacances de Noël. Alors que le ferroviaire entre dans la concurrence à petite vitesse, Ouigo se développe même plus vite en Espagne. Notre invité Patrick Vieux, vice-président de l'autorité de régulation des transports, reviendra avec nous sur cette accélération ralentie en France de l'ouverture à la concurrence. Bien d'autres choses évidemment d'ici midi et demi et puis midi et demi 13h, BFM Business avec vous, on répond à vos questions. On vous donne la parole à vous qui recrutez. Bienvenue à tous. Comment passer l'hiver sans le gaz russe et privé de la moitié du parc nucléaire en France? Nous avons déjà désormais un plan de sobriété, mais quand l'Europe aura-t-elle un plan d'encadrement du prix du gaz? Les chefs d'État et de gouvernement vont en débattre lors d'une réunion à Prague, alors qu'ils tentent d'endiguer la flambée des prix de l'énergie qui menace de faire plonger l'économie du bloc en récession. Pourtant, la mise en œuvre du dispositif pourrait être très rapide, c'est ce qu'assure le porte-parole du gouvernement. Olivier Véran était sur RMC BFM TV.
D'abord, il faut un traitement de fond. Le traitement de fond, c'est plafonner le prix du gaz, c'est découpler le prix du gaz et de l'électricité, notamment lorsque l'électricité est produite à partir du nucléaire. C'est ce qu'a travaillé d'arrache-pied le président de la République française au niveau de la Commission européenne. Nous avons désormais une position européenne très claire. Nous nous harmonisons avec les Asiatiques qui font face aux mêmes difficultés et nous demandons aux pays producteurs, notamment la Norvège et les États-Unis, de faire en sorte que les prix que nous ayons à payer ne soient pas quatre fois les prix du marché.
Parole performative, en octobre, là, dans quelques semaines, on y arrivera à cet encadrement du prix du gaz. Jean-Marc Daniel, est-ce que ça vous paraît envisageable de mettre les Européens d'accord et quel mécanisme?
Alors, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, les Européens essaient de se mettre d'accord. Il y a un prix qui est affiché, 180 € l'unité de référence, c'est le mégawattheure fabriqué avec du gaz. Et ce qui me frappe, c'est d'abord, effectivement, que il y a toujours ce problème allemand, c'est-à-dire cette dépendance des Allemands à un fournisseur unique. Et donc, on va de nouveau faire le procès posthume, j'allais dire, en tout cas le procès tardif de Madame Merkel sur le fait que le mix énergétique allemand n'est pas du tout celui qui convient à la situation économique de ce pays. La deuxième chose, c'est que le prix du gaz est très volatile et qu'en ce moment, il est beaucoup moins élevé qu'il l'était. Donc au mois d'août, on avait atteint 340 €. Le marché à terme anticipait 280 € au mois d'octobre. Et là, certains jours, on est descendu à 140 €. Et donc même les 180 € ne sont pas forcément totalement d'actualité. Et puis alors le troisième élément, c'est quand même il y a dedans des gens qui en profitent, indépendamment des Russes. Et on a parlé des Américains et des Norvégiens. Les Norvégiens sont clairs, ils sont européens, solidaires, ils regrettent de ne pas avoir pu rejoindre l'Union à divers titres. Mais sur le plan commercial, ils ont eu un comportement qui est extrêmement virulent et extrêmement violent. Et ils ne veulent pas faire de concessions aux Européens. Donc c'est un dossier qui va encore traîner longtemps jusqu'au moment où le prix du gaz lui-même va baisser. Tu fais des conditions de marché. C'est peut-être cela aussi ce sur quoi table certains.
Parviendrons-nous à découpler le prix du gaz du prix de l'électricité? Faut-il étendre l'exception ibérique au reste de l'Europe?
Alors ça, c'est un vieux débat. Je pense qu'effectivement, le couplage, en fait, l'association était liée à une idée de fonctionnement de marché qui correspondait à la théorisation du marché. On n'est pas dans les conditions du marché, puisque dans les conditions du marché, quand le prix augmente, la production augmente, et là, quand le prix augmente, M. Poutine non seulement n'augmente pas la production, mais au contraire, il détruit une partie de la production dans des enchères. Donc, effectivement, qu'on se éloigne un peu des règles strictes du marché, même moi, je suis prêt à l'admettre.
On y reviendra avec le professeur à Sciences Po, Thierry Brosse, avec nous dans le Focus juste après le journal. Pour limiter la pénurie qui touche 15% des stations essence en France, selon les chiffres du gouvernement, le ministre des Transports, Clément Beaune, autorise exceptionnellement les camions citernes à rouler le dimanche. Une nouvelle pénurie nous menace à nouveau. Allons-nous cette fois manquer de médicaments génériques face à la hausse des coûts de l'énergie, auxquels s'ajoute la complexité de l'acheminement des matières premières? Les fabricants ne peuvent pas répercuter cette hausse dans le cadre des prix fixes de ces médicaments. Hélène Cornet.
Le prix de l'électricité a été multiplié par 10 pour certaines usines. Le coût des matières premières a lui augmenté de 50 à 160%, s'alarme l'Association d'industriels des médicaments génériques. Résultat, des marges qui s'effritent et des médicaments qui pourraient bientôt ne plus être produits car pas assez rentables. On ne veut pas être alarmiste, mais ça devient vraiment très tendu, nous confirme le président du GEM, la fédération qui représente le secteur. Impossible de relever les prix. Ils sont fixés par le régime d'assurance maladie. Pire, ces industriels ont été intégrés aux efforts d'économie prévus par le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Un comble pour le secteur, alors que les médicaments génériques permettent justement de faire des économies de l'ordre de 2,5 milliards d'euros à la collectivité. Sans trop y croire, ils demandent néanmoins plus de flexibilité sur les prix en attendant un retour à la normale.
Et justement, les fabricants de médicaments continuent leur bras de fer puisque c'est à partir de lundi que doivent débuter les débats sur le budget de sécurité sociale en commission des finances à l'Assemblée. Des échanges électriques à prévoir tant les professions médicales, les industriels du médicament sont hostiles au projet de loi qui prévoit une cure d'austérité avec un effort de plus d'un milliard d'euros d'économies sur le médicament, mais aussi des coups de rabot chez les biologistes, les radiologues et les complémentaires santé. La balance commerciale de la France se dégrade d'un milliard d'euros par rapport à juillet, 15 milliards 500 millions d'euros de déficit selon le décompte des douanes. Ce matin, le déficit grimpe à 139 milliards d'euros sur l'année passée. Ce sera votre édito, Jean-Marc Daniel. Après le répit, le repli menace désormais l'économie française. Voici l'enseignement principal à tirer de la note de conjoncture de l'INSEE. La plupart des indicateurs se dégradent. L'Institut prévoit une croissance nulle de l'activité au quatrième trimestre. Le taux de chômage ne devrait pas augmenter. L'INSEE prévoit une stagnation à 7,4% au second semestre. La reprise s'est faite plus à coût d'emploi qu'à coût de productivité, explique le directeur général de l'INSEE. Malgré la crise, la baisse de productivité, l'emploi continue de progresser, les entreprises continuent d'embaucher, constate Jean-Luc Tavernier sur BFM Business.
Les secteurs en reprise qui ont bien marché, je ne sais pas moi, parlons informatique et communication, qui ont embauché. Ouais. Et les secteurs qui étaient, eux, plutôt en déprise, les industries de transport, le matériel de transport, qui ont gardé l'emploi en se disant, de toute façon, retour à meilleure fortune, je ne me sépare pas dans cette période-là où il y a quand même un peu des tensions sur les qualifications, sur les talents et sur les recrutements, je ne me sépare pas de mes cadres et de mes salariés, de manière générale. Donc ça, c'est une piste. Deuxième piste, c'est bien sûr, et on le dit, ce sont les chiffres en matière d'alternance. Ça fait, sur l'année 2022, le développement de l'alternance, ça sera un bon tiers des créations d'emplois. Et puis, de manière générale, on se rend compte, me semble-t-il, que depuis qu'on a un peu modifié l'évolution du marché du travail, qu'on a réduit les coûts de séparation, les coûts de licenciement, on a une économie qui, globalement, est moins frileuse pour créer des emplois.
Si les entreprises sont toujours confrontées à des difficultés d'approvisionnement, elles n'ont pas trop souffert selon la note de conjoncture. Elles devraient retrouver les taux de marge comparables à ceux de l'avant-pandémie, 32% pour celui des sociétés financières en 2022. La suppression des impôts de production, elle a été adoptée en commission des finances à l'Assemblée nationale. La CVAE représente 8 milliards d'euros par an. La France divise par 3 l'amende record infligée contre Apple dans le bras de fer entre l'autorité française de la concurrence et le géant de la tech. La Cour d'appel de Paris a abaissé à 372 millions d'euros contre 1 milliard 100 millions le montant de l'amende imposée par le régulateur français pour entente illicite avec des distributeurs et abus de dépendance économique. Midi 9 sur BFM Business, on suit toujours le feuilleton Twitter. Le rachat du réseau social par Elon Musk ne cesse de rebondir. La justice américaine a donc pris les choses en main et prévient, le rachat doit être conclu avant le 28 octobre, c'est dans 3 semaines, jour pour jour, faute de quoi? Eh bien, le procès entre Elon Musk, le patron de Tesla et Twitter aura bien lieu. Frédéric Simotel, pourquoi Twitter insiste à ce point pour poursuivre la procédure?
Eh bien, parce qu'il doute d'Elon Musk, il le traite même de, c'est un roublard, donc il doute un peu des conditions de financement. En fait, tout s'est accéléré ces dernières 24 heures. Sans doute refroidi par la décision de la juge, hein, Kathleen McCormick de la Cour du Delaware, qui, elle, a dit, moi, les arguments sur les faux comptes de Twitter qui étaient les accusations portées par Elon Musk pour faire baisser le prix de Twitter, elle dit, je n'en tiendrai pas compte. Donc là, Elon Musk a dit, oula, mon principal argument est en train d'être balayé, il risque une grosse amende si le procès est prononcé à sa défaveur. Donc, mercredi 5, on apprend par Bloomberg qu'une lettre a été envoyée à la SEC, le gendarme de la bourse américaine. Il dit, voilà, bah finalement, je suis OK pour acheter Twitter, aux conditions préalables, j'avais annoncé en avril, donc 44 milliards de dollars. Et là, les choses, donc on se dit, ça y est, les avocats sont contents, ils continuent à encaisser leurs honoraires, les actionnaires sont censés adopter tout ça. Il n'y a que les banques qui tiquent un peu, parce qu'il y a quand même 12 milliards et demi de dettes à refinancer. Alors derrière, il y a Morgan Stanley, la Barclays, il y a même BNP Paribas et Société Générale. Et c'est peut-être là où ça va choper, parce que justement, hier soir, jeudi soir, eh bien, les avocats de Twitter ont dit, non, mais nous, d'accord, on a pris acte de cette offre d'achat, mais on tient à ce que le procès se poursuive, à ce que le procès ait lieu. Tout ça, c'est pour mettre la pression, parce qu'ils doutent un peu des conditions de financement. Et donc, c'est la juge qui a décidé de trancher, de dire, écoutez, si rien n'est fait, donc elle reporte pour l'instant le procès au mois de novembre, et si rien n'est conclu au 28 octobre, eh bien, le procès aura bien lieu en novembre. Donc là, deux choses, soit la dette est bien financée et les conditions de financement et l'argent commence à arriver sur le compte des actionnaires de Twitter et là, ben voilà, on va rentrer dans ce process de rachat. Soit le financement est compliqué et là, on va partir dans le procès et là, Elon Musk, ça risque de coûter très cher à Elon Musk.
Mais sera-t-il prêt justement à faire face à ça? On suivra ça.
On suivra ça encore, l'épisode, c'est pas prêt, ça s'arrête pas.
On se demande comment encadrer les prix du gaz sur BFM Business dans 60 minutes business avec Thierry Brosse, l'expert en énergie et professeur à Sciences Po. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous à distance aujourd'hui. On se demande si la réunion qui a lieu à Prague entre les dirigeants européens pourra parvenir à un accord pour encadrer, plafonner ce prix du gaz qui a dépassé des records. Aujourd'hui, Thierry Brosse, l'Espagne n'est pas soumise justement à bénéficier d'une exception auprès de la Commission européenne. Est-ce que l'exception ibérique doit devenir la norme ?
Vous avez raison, il y a eu une fragmentation du marché européen avec l'Espagne qui finalement a trouvé une solution qui était de caper théoriquement le prix du gaz qui rentre dans la génération électrique. Et donc, comme vous savez que le gaz, c'est l'appel marginal pour la génération électrique, ça cape le prix de toute l'électricité. Alors, juste pour vous donner un ordre de grandeur, si on faisait ce que fait l'Espagne pour l'ensemble de l'Union européenne, c'est-à-dire si on arrivait à caper le prix de l'électricité à 180 euros par mégawattheure, eh bien, ça voudrait dire que, quelque part, il faudrait trouver encore plus de 100 milliards d'euros de subventions pour payer ce gaz, puisque ce gaz, vous l'achetez quand même au prix de gros. L'intérêt de l'Espagne, c'est que ça marche. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, il va falloir encore trouver 100 milliards d'euros de subventions. L'autre solution, qui est celle qui est portée par la France, elle, est beaucoup plus compliquée, puisque c'est caper le prix du gaz sur les marchés de gros. Je vous rappelle que 89% de notre gaz vient de l'étranger, et donc ça voudrait dire aux producteurs étrangers, eh bien écoutez, on ne va pas vous payer le prix de marché, mais le prix qu'on décide. Il n'est pas très certain que cela fonctionne. Donc vous voyez, l'Espagne, finalement, c'est peut-être le pis-aller dans cette solution-là.
Allemagne, Danemark, Pays-Bas d'un côté, 15 autres pays du bloc communautaire de l'autre. Thierry Brosse, est-ce qu'une mesure unique, ce serait envisageable ?
À la fin, si on ne veut pas revenir sur 20 ans de marché unique, il va falloir trouver quelque chose d'unifié, parce qu'autrement, vous allez avoir une fragmentation des marchés de l'énergie, et donc on va revenir au marché pré-2000, où chaque fois que vous passiez une frontière, il fallait réadapter votre prix, etc. Donc non, l'Union européenne a été fondée sur l'acier et le charbon, et donc il faut avoir un prix unique, un prix global en Europe sur l'électricité.
Mais pourtant, vous employez le mot de fracture, Thierry Brosse, au début, et on voit bien le programme de 200 milliards d'euros d'emprunt de l'Allemagne, justement, pour protéger son industrie. Est-ce que c'est possible d'éviter cette fracture au sein des membres quant à l'endettement pour préserver l'industrie de chacun ?
Mais ça va être le grand travail de la Commission européenne. Oui, il va falloir mettre beaucoup d'argent. Peut-être que ça sera un Next Generation 2.0 qu'il faudra refaire après celui qui a été fait pour le Covid. Mais la deuxième partie de la question m'interpelle, c'est-à-dire est-ce qu'on va éviter la désindustrialisation de l'Europe ? La réponse est malheureusement non, puisque je vous rappelle que pour réindustrialiser l'Europe, il faut de l'énergie abondante, peu chère et décarbonée. Et ce sont des choses qui vont nous manquer pendant des années. Donc il y a des chances qu'on continue de voir une désindustrialisation avec la chimie, le verre, etc., qui vont aller aux États-Unis où le prix du gaz est beaucoup, beaucoup moins cher.
Merci beaucoup Thierry Bros, spécialiste de l'énergie, professeur à Sciences Po, d'être venu nous apporter vos éclairages midi 15 sur BFM Business, l'heure de l'édito de Jean-Marc Daniel. Jean-Marc Daniel, la balance commerciale.
BFM Business. 60 minutes business, l'édito de Jean-Marc Daniel.
Le décompte des douanes est tombé ce matin, la balance commerciale de la France se creuse encore 1 milliard d'euros par rapport à juillet dernier.
Oui, c'est ça, oui, on atteint sur une année un chiffre qui est aux alentours de 140 milliards d'euros de la balance commerciale. Ce qui est intéressant, c'est que simultanément, on a le résultat donné par la Banque de France de déficit de la balance des paiements courants, c'est-à-dire on rajoute au déficit commercial les services et notamment le tourisme. Et on a des chiffres de juillet et août qui sont des chiffres normalement où le tourisme est plutôt favorable. Et quand on regarde sur une année, on a 60 milliards d'euros de déficit. Certes, en 2021, on avait eu une bonne surprise avec le rapatriement des bénéfices de certaines entreprises. Là, on retrouve le déficit structurel de notre balance des paiements courants. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une chose claire, nette et simple. Un pays qui est en déficit, sa balance des paiements courants, est un pays qui vit au-dessus de ses moyens, comme aurait dit Raymond Barre dans les années 70. Et le FMI, dans les notes qu'il fait pour expliquer les grands concepts de l'économie, dit que c'est assez simple. Un pays qui vit au-dessus de ses moyens subit en général deux handicaps. Le premier, c'est une politique budgétaire inconsidérée, et le second, c'est une frénétique de consommation. Et il se trouve que la France subit effectivement ces deux handicaps. On a une politique budgétaire, qui est inconsidérée. On a un déficit budgétaire qui fait 5% du PIB. Et sur la consommation, eh bien, malgré ce que l'on pense, la consommation française, c'est de moins en moins de la croissance et de plus en plus du déficit. Et donc, l'appel à la sobriété doit être un appel non pas concentré exclusivement sur l'énergie, mais un appel global à une certaine forme de sobriété, notamment sur les produits importés.
La sobriété financière également. Merci Jean-Marc Daniel. Les marchés à la mi-journée. On suit la séance à la Bourse de Paris avec Antoine Larigauderi. Un climat très indécis sur les marchés, Antoine. On sent des investisseurs très peu décidés.
Oui, et puis vraiment des points de tension assez nets. Alors on pourrait se dire que tout va bien, on a un CAC 40 qui gagne tranquillement 0,1%, là, 0,09. On est à 5940, mais alors déjà, compte tenu de tout ce qu'on a fait les jours précédents, on peut considérer que c'est une contre-performance. On sent vraiment que les progressions des indices actions sont capées. On est même en baisse du côté de l'Eurostock 50 à moins 0,18, moins 0,09 pour le DAX à Francfort. Mais alors, des points de tension quand même un peu inquiétant à nouveau sur l'obligataire européen avec la France, 2,75% de rendement pour le 10 ans, 2,15 pour la dette allemande, la dette italienne qui se tend à nouveau très fortement à 4,6%. On a un euro-dollar qui parallèlement est sur le fil de 0,99, on était même en dessous tout à l'heure et même à 0,97, on a eu une très nette correction sur l'euro-dollar et parallèlement un pétrole qui continue de grimper au-delà des 95 $. Donc le climat est tendu en attendant un chiffre très très important tout à l'heure à 14h30, le rapport américain sur l'emploi. Il devrait continuer à être robuste malgré un effritement sur le mois écoulé. On devrait être quand même au-delà des 200 000 créations de postes. Donc pas de raison si le rapport est confirmé que la Fed infléchisse sa politique monétaire. Donc du coup, le climat reste tendu sur l'obligataire, empêche les actions de progresser. À noter quand même Renault qui gagne 3,56% à 30,29 €. On a Total qui est stimulé par les cours du brut qui gagne 1,8% à 52,22 €. Carrefour aussi qui prend 1,5% à 14,34 €. Sinon à la baisse, bah justement ces tensions sur l'obligataire font plier les valeurs de croissance. ST Micro par exemple perd 2,5% à 34,67 € ou Capgemini moins 1,6 € à 168,20 €. Un dernier mot des devises, des crypto-devises très précisément avec le Bitcoin qui est sous les 20 000 $, 19 941. L'Ether toujours bloqué du côté des 1300, on est à 1353. Le CAC donc plus 0,05 à 5 939. Thomas.
Merci Antoine Larigauderi. Les Les trains low cost Ouigo ouvrent leur deuxième ligne en Espagne entre Madrid et Valence, alors que dans le même temps, eh bien en Hexagone, la concurrence est à la peine avec la seule présence de la SNCF et de Trenitalia. Comment expliquer ce décalage? Patrick Vieux, vice-président de l'autorité de régulation des transports, est avec nous juste après ça.
BFM Business, 60 minutes business, l'invité.
Ouigo a ouvert sa deuxième ligne en Espagne entre Madrid et Valence, un an après l'ouverture de la ligne entre Madrid et Barcelone, 3 millions de passagers. L'Espagne qui met un coup d'accélérateur pour combler son retard en matière de développement ferroviaire, contrairement à l'Hexagone, où la concurrence marque un peu le pas avec la seule présence de la SNCF et de Trenitalia entre Paris, Lyon et Milan. Patrick Vieux, bonjour.
Bonjour Thomas Schnell.
Vice-président de l'autorité de régulation des transports. C'était l'un des piliers de la réforme de la SNCF en 2018. L'ouverture à la concurrence, le Big Bang était imminent. Où est-ce qu'on en est deux ans après?
Alors, avant peut-être de vous répondre directement sur cette question, il faut quand même prendre la mesure de la concurrence qui existe déjà en France, notamment dans le fret. Vous avez quand même une vingtaine d'opérateurs aujourd'hui de fret qui assurent le transport de marchandises. Et là-dedans, vous avez à peu près 50% qui est assuré par Fret SNCF, la filiale. Vous avez d'autres entreprises du groupe SNCF et vous avez quand même les entreprises privées qui font à peu près 30% de ce trafic de fret. Vous avez un deuxième élément quand même, c'est ce qui se passe sur le transport combiné, où vous le savez, donc sur le transport régional, la région sud a attribué un lot à Transdev entre Marseille et Nice, hein, qui est un élément très important de l'ouverture du marché ferroviaire. D'autres régions s'apprêtent à ouvrir à la concurrence. Et donc, en effet, il y a le troisième segment qui est celui de ce qu'on appelle le système en fait ouvert, donc de concurrence sur le marché. Et là, on a effectivement Trenitalia qui assure un certain nombre de liaisons entre Paris, Lyon et Milan. La RENFE a d'ores et déjà notifié des services et même réservé des sillons pour l'année prochaine sur un certain nombre d'allers-retours importants entre Marseille et Barcelone, voire Madrid et Paris, donc ou Madrid et Lyon. Donc on a, si vous voulez, les choses bougent, y compris donc sur le service librement organisé.
Mais comment on peut expliquer justement que la RENFE qui s'est portée volontaire sur des tronçons aujourd'hui, pourquoi est-ce que la mise en service de nouvelles lignes et cette candidature notamment prend-elle autant de temps en France ?
Alors, vous avez raison, il y a à ça un certain nombre d'explications. Beaucoup de ces explications tiennent au réseau, de façon générale à l'accessibilité au réseau. Soit parce que les tarifs ferroviaires, c'est-à-dire les péages que payent les entreprises de ferroviaires pour circuler sur le réseau... À SNCF Réseau sont très élevés. SNCF Réseau, donc, qui est le gestionnaire du réseau, ces péages sont très élevés. Très honnêtement, les plus élevés d'Europe, très largement. Pourquoi sont-ils si élevés? Parce que la France, historiquement, a fait le choix de financer ses infrastructures de transport d'abord par l'usager, et donc les entreprises ferroviaires, marginalement par les pouvoirs publics, si je puis dire. D'autres pays ont fait le choix inverse. La Suède, par exemple, a totalement investi sur fonds publics dans le réseau, en ne laissant aux usagers que la charge de payer le train.
Et si Trenitalia a réussi à s'investir, c'est parce qu'il a bénéficié d'une ristourne, mais elle est temporaire, il me semble.
Alors, absolument, le droit européen autorise, sous le contrôle d'ailleurs du régulateur national, la possibilité de ristourne pour compenser des surcoûts liés aux nouveaux entrants. Ces surcoûts, ils peuvent tenir à plusieurs ordres. Alors d'abord, il y a un effet de montée en charge progressive de la recette qui fait qu'effectivement, les premières années, vous avez investi dans l'achat de rames et vous n'avez pas évidemment les recettes qui vont en face. Mais vous avez un certain nombre de coûts qui sont liés strictement au ferroviaire, en particulier tout ce qui concerne les contrôles-commandes, c'est-à-dire tous les systèmes de guidage en fait, des trains qui en fait assurent la transmission entre le sol, donc le rail et le bord, la machine qui roule. Et ces systèmes-là sont des systèmes nationaux pour beaucoup d'entre eux. Il existe un système européen standard, mais qui n'est pas déployé dans toute l'Europe et qui, en France, n'est déployé qu'à 40% des lignes à grande vitesse. Et donc, tout opérateur comme la RENFE qui veut venir sur le marché français est obligé de s'équiper. Ça coûte cher et donc ça justifie des ristournes temporaires.
Est-ce qu'il faut investir dans le train subventionné, les TER, plutôt que le ferroviaire en libre accès, les TGV, les intercités, puisque c'est notamment le choix de Transdev qui est allé avec la Caisse des dépôts?
Alors, c'est un autre marché. C'est une concurrence donc pour un marché, pour un contrat et non pas sur un contrat. La grande différence, si vous voulez, c'est qu'on est dans un modèle ici qui est plus de l'ordre de la délégation de services publics, c'est-à-dire c'est des risques qui sont quand même beaucoup plus capés, beaucoup plus plafonnés dans le cadre d'un contrat. Ce sont des contrats à 10 ans. Celui de Transdev qui a été passé donc avec la région sud est un contrat qui porte sur 900 millions d'euros, qui porte sur 30 millions du marché. Mais vous avez raison. Si j'avais à résumer l'histoire du système ferroviaire depuis quoi, 40 ans, la grande réussite du système ferroviaire français, quand même, c'est la régionalisation. Les régions, aujourd'hui, sont le premier partenaire financier, si vous prenez tout en compte, le coût, les prix qu'elles payent à la SNCF pour exploiter leurs trains régionaux, l'argent qu'elles mettent sur le matériel roulant, et également, d'ailleurs, en partie sur l'infrastructure, ça fait des sommes considérables. Donc, les régions sont effectivement un partenaire incontournable et elles ont beaucoup participé à la dynamique, en fait, du ferroviaire. Cela étant dit, je crois qu'il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Si je réponds à nouveau à la question de l'ouverture du marché et des perspectives, nous avons, nous, en tant qu'autorité de régulation, aujourd'hui, une quarantaine de services notifiés par de nouveaux acteurs qui veulent arriver sur le marché. Sur cette quarantaine de services, ce sont des services librement organisés. Hein, et sur ces services librement organisés, paradoxalement, vous avez très peu de lignes à grande vitesse. L'essentiel, c'est de la ligne classique. C'est on réinvestit le train de nuit, on réinvestit des lignes plus locales, pas régionales, hein, mais plus locales. Et donc, c'est un élément essentiel, en fait, de l'avenir de ce marché ferroviaire.
Moi, j'aurais juste une question. La concurrence, c'est pas uniquement le train, c'est aussi les cars Macron qui ont été mis en place. C'est le covoiturage qui se développe. C'est les lignes aériennes. Est-ce qu'on le voit en impact sur la vie de la SNCF ou est-ce que ça reste des mécanismes assez marginaux et que la vraie concurrence que va subir la SNCF viendra d'autres opérateurs ferroviaires?
Je crois que c'est vraiment la deuxième option. Vous avez raison de dire qu'il y a de la concurrence marginale entre les cars Macron, ce que vous appelez les cars Macron, les cars librement...
Oui. On appelle les cars Macron, c'est pas
pour vous. Absolument. Et le service ferroviaire. Du reste, nous pouvons, nous, être saisis par des régions qui exploitent du TER, donc qui payent à la SNCF une convention, dans le cadre d'une convention, si elles estiment qu'un car Macron leur fait une concurrence indue. Mais pour répondre à votre question, l'essentiel aujourd'hui des personnes qui prennent en fait les cars Macron sont des gens qui n'auraient pas voyagé s'ils n'avaient pas eu ce choix-là, donc qui ont fait le choix de voyager parce que les prix sont très bas et que la segmentation du marché par les cars Macron est extrêmement fine, extrêmement précise.
On l'entend, c'est du temps long, le train, le ferroviaire, voyageur en particulier. Merci beaucoup Patrick Vieux,
vous en prie.
Vice-président de l'Autorité de Régulation des Transports, d'être venu dans BFM Business. Il est midi 29, on marque une petite pause. Après ça, le rappel de l'actualité. Puis BFM Business avec vous, on vous donne la parole. A tout de suite.
BFM Business, 60 minutes business, le top 3 du web.
Mais avant, vous le savez, tous les vendredis, on a les top 3 du web avec Thomas Leroy. Bonjour.
Bonjour.
Le top 3 des articles les plus lus sur notre site. On commence d'abord par EDF, qui aimerait convaincre les Français de choisir son offre Tempo. C'est une offre qui pourrait bien donner un bon coup de pouce au plan de sobriété présenté hier par le gouvernement.
Oui, c'est une offre un peu méconnue de l'énergéticien que nous explique cet article de Timothée Talbi. Donc l'offre Tempo, elle existe pourtant depuis 30 ans et le principe, il est assez simple, c'est inciter les particuliers à réduire leur consommation lors des pics de tension avec un système de code couleur. Alors concrètement, 300 jours dans l'année, c'est le code bleu. Et alors là, c'est très intéressant puisque le tarif sur les heures pleines, alors pour faire simple, les heures pleines, là, c'est la journée, les heures creuses, c'est la nuit. Sur les heures pleines, le tarif est 30% inférieur au tarif classique et sur les heures creuses, c'est même 40% inférieur. Ensuite, vous avez le code blanc, 43 jours dans l'année. Là, la réduction tarifaire est un peu inférieure, un peu plus faible, moins 10% en journée, 25% en moins la nuit. Et puis, vous avez effectivement le retour du bâton. C'est le code rouge, 22 jours dans l'année, entre le 1er novembre et le 31 mars. Cette fois, le prix du kilowatt, il est multiplié par 3. Évidemment, ce sont les journées où EDF s'attend à un pic de tension. Et donc, l'idée, c'est d'inciter justement ses clients à réduire la consommation ces jours-là pour soulager le réseau électrique. Donc, très concrètement, le client est prévenu la veille avant 11h du matin pour la journée qui va suivre. Et d'ailleurs, c'est une offre qui doit rappeler quelque chose peut-être aux plus de 30 ans. C'est l'héritière de l'option EJP, effacement jour de pointe, qui a disparu en 1998 pour les nouveaux clients, mais dont continuent à bénéficier encore 400 000 ménages, alors assez chanceux, puisque c'était des conditions très intéressantes qui continuent pour eux. Et enfin, ce que nous apprend l'article, c'est que bon, il y a encore quelques critères techniques pour la sélection des foyers, mais EDF vise quand même 5 millions de clients potentiels pour cette offre Tempo.
Pour toujours faire des économies dans ce plan de sobriété, on en a parlé, ça a fait sourire. Parfois, la mise en veille des box internet, qui l'air de rien, consomme en continu à l'échelle de la France et de l'Europe. Ça représente une quantité d'énergie importante, Thomas.
Oui, la mise en veille des box Internet, alors elle fait partie du plan de sobriété du gouvernement, vous l'avez dit, et comme le rappelle Pierre Mounier dans son article, on ne laisse pas sa voiture allumée sur le parking quand on n'y est pas, on ne laisse pas le robinet ouvert si on ne l'utilise pas. Alors pourquoi on utilise sa box Internet et on laisse son Wi-Fi la nuit quand on dort ou alors la journée quand on est au travail? D'autant que, vous l'avez dit, à l'échelle nationale, on estime que la consommation des box Internet allumées en permanence est équivalente à la production d'un demi-réacteur nucléaire. Et sur l'échelle du continent, de l'Europe, on parle de 2 à 3 réacteurs nucléaires. Donc, c'est pas si peu que ça. L'avantage, c'est que c'est aussi une mesure qui peut être prise assez efficacement. Hein. Les opérateurs peuvent mettre en place des outils pour que vous puissiez justement prévoir des plages horaires d'activation de votre Wi-Fi qui va s'éteindre la nuit, qui va se rallumer dès le lendemain matin. Et puis, il y a une autre petite piste pour gagner encore quelques petits kilowattheures, c'est de faire en sorte que le décodeur TV de votre télévision donc s'éteigne quand on éteint la télé. Puisque finalement, aujourd'hui, le décodeur TV, la plupart s'éteignent au bout de quelques heures d'inactivité. Là, c'est encore raccourcir un petit peu ce délai et gagner encore un peu quelques kilowatts.
Et peut-être mettre une télécommande aussi pour éteindre la box ou un interrupteur, tout simplement. On est en octobre, Thomas, on se préoccupe déjà de Noël, pourtant.
Ben oui, alerte au foie gras. Jérémy Bruno nous explique dans son article que si vous voulez du foie gras à Noël ou au Nouvel An, ben c'est peut-être maintenant qu'il faut s'y prendre. Car la production a sévèrement chuté cette année, moins 30%. Tout ça à cause évidemment de la grippe aviaire qui a durement touché les élevages cette année. Alors le foie gras mi-cuit ou en conserve, on devrait réussir à passer l'hiver. Hein. Par contre, le foie gras frais, là, il faut probablement s'y prendre un peu plus tôt, nous indique l'interprofession du foie gras. Et une autre info, un produit plus rare est un produit souvent plus cher. Donc il va falloir s'attendre à mettre un petit peu plus d'argent pour justement ces fêtes.
Il faut que ça se conserve aussi longtemps. Merci Thomas Leroy. Midi 33, le rappel de l'actualité tout de suite.
BFM Business. L'info éco.
L'info éco à midi 34 avec Claire Sergent.
Et à la une ce midi, la réunion des 27 aujourd'hui pour débattre d'un plafonnement des prix du gaz. Les chefs d'État de l'Union européenne se retrouvent à Prague. Des représentants ont déjà averti. Il est peu probable que des mesures concrètes soient décidées directement. Il faut mettre tout le monde d'accord. La France fait partie de ceux qui vont militer pour le plafonnement. Écoutez Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement sur BFM TV.
D'abord, il faut un traitement de fond. Traitement de fond, c'est plafonner le prix du gaz, c'est découpler le prix du gaz et de l'électricité, notamment lorsque l'électricité est produite à partir du nucléaire. C'est ce qu'a travaillé d'arrache-pied le président de la République française au niveau de la Commission européenne. Nous avons désormais une position européenne très claire. Nous nous harmonisons avec les Asiatiques qui font face aux mêmes difficultés et nous demandons aux pays producteurs, notamment la Norvège et les États-Unis, de faire en sorte que les prix que nous ayons à payer ne soient pas 4 fois les prix du marché.
Et dans ce contexte de tension énergétique, le déficit commercial de la France se creuse encore. Il s'établit à 15,3 milliards d'euros fin août. Selon le Bureau des douanes françaises, c'est 1,5 milliard d'euros de plus que fin juillet. Le gouvernement demande aux groupes pétroliers de faire des efforts sur les salaires. Les grèves durent depuis 10 jours chez Total Energy, chez Esso, bloquant plusieurs raffineries. Des stations-service se retrouvent à sec, les files d'attente s'allongent. Olivia Grégoire appelle les entreprises concernées qui, pour la plupart, ont quand même de bons résultats, précise la ministre déléguée au PME, à considérer les demandes d'augmentation de salaire. Les États-Unis cherchent la réponse appropriée à Riyad, l'Arabie Saoudite et ses partenaires de l'OPEP+, qui ont décidé de baisser drastiquement leur production de pétrole, alors que Washington souhaitait l'inverse. Le gouvernement américain dit étudier plusieurs réponses et consulter le Congrès. Parmi les pistes envisagées, couper les ventes d'équipements militaires aux Saoudiens. Et puis dans l'affaire Twitter contre Elon Musk, les deux camps ont jusqu'au 28 octobre pour s'entendre, alors que le milliardaire a annoncé il y a 2 jours qu'il voulait en fait toujours acheter le réseau social au prix convenu au départ. La méfiance règne, Twitter ne renonce pas à son procès. Le juge leur accorde donc 10 jours de plus pour trouver un accord. Tout de suite, on va voir la tendance sur les marchés. Et le CAC qui reste à l'équilibre, légèrement au-dessus des 5900 points à 5938 points.
Claire Sergent pour l'actualité. Merci d'être avec nous dans BFM Business. Tout de suite, c'est BFM Business avec vous.
Votre rendez-vous avec Bruno.fr, le spécialiste de tous les équipements de travail. Bruno, BRUNEAU, à vos côtés pour réussir.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
Avec vous, avec nous et avec Alexandre Jost, bonjour.
Bonjour Thomas.
Fondateur de la fabrique Spinoza, le philosophe du bonheur. On va parler avec vous de l'aménagement des bureaux. Puisqu'aujourd'hui, on apprend dans un sondage Ipsos qu'1 Français sur 3 a changé ses plans de carrière après le Covid. Le Covid qui a tout changé, plus rien ne sera comme avant, un grand bouleversement. Le travail n'est plus structurant. Avec le Covid, beaucoup ont découvert qu'il était très agréable de rester chez soi. Pensez à ceux qui sont dans la restauration, pouvoir passer ses soirées avec ses enfants, ça peut changer sa vie. Tout cela, ça a des conséquences. 500 000 démissions au premier trimestre. Et les nouveaux espaces de travail peuvent faire partie de la solution aujourd'hui pour attirer des nouvelles recrues ou pour garder ses talents en présentiel. Vous vous y connaissez à la Fabrique Spinoza. Alors d'abord, on va commencer par des économies qui sont faites aujourd'hui. Est-ce que réduire la surface des bureaux, ça empire la situation aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Dans cette étude qu'on a réalisée avec Factory, en fait, on met en évidence qu'il y a une tentation très forte de se dire avec le télétravail, on va réduire l'empreinte foncière, on va diminuer les coûts. Et en fait, il y aura un seuil qui serait aux alentours de 15% de réduction d'espace. Si on va en dessous de ça, alors on porte atteinte à la qualité du travail parce que finalement on va empêcher des espaces nécessaires comme de créativité, de collaboration, différents types d'espaces, eh bien d'exister dans les bureaux. Et donc il faut être très attentif parce que à la fois pour la santé des collaborateurs, pour l'épanouissement et pour la performance de l'entreprise, eh bien on pourrait aller trop loin dans la réduction de l'empreinte en termes de surface des bureaux.
Justement, santé, confort, bien-être, c'est ça aujourd'hui les mots-clés, la priorité pour pouvoir réenchanter ces bureaux. Ce seraient lesquelles les priorités à mettre quand on parle de santé justement dans le bureau ? Quel conseil on peut donner ?
Quand même, il y a 63% effectivement des patrons, hommes et femmes, qui disent être préoccupés quant à la santé physique et mentale des collaborateurs. Et donc, ce dont il s'agit, c'est de pouvoir aménager des espaces de repos, c'est de pouvoir veiller à la lumière, c'est de veiller aux nuisances sonores. Et puis, un point un peu décalé, on parle de biophilie, c'est-à-dire avoir la présence de vivants, notamment de vers, de végétal dans les bureaux. Tout ça est absolument fondamental. Si on n'oublie pas qu'à côté de ça, il faut que le management et les modes de travail suivent, et notamment des invitations à se mouvoir, à quitter la sédentarité. On en a besoin, les bureaux santé peuvent nous soigner, et ça on l'oublie.
Et on le dit pas assez, il faut se lever au moins une fois toutes les 30 minutes, il me semble, de sa chaise pour garder une bonne forme physique.
Jusqu'à 33%, je vous coupe, pardon Thomas, de diminution des risques cardiovasculaires en faisant ce simple geste.
Juste se lever, on fait un tour de son bureau, on se rassoit, ça peut suffire à maintenir en bonne santé. Concernant l'organisation des espaces, comment réimaginer les espaces ? Est-ce qu'il faut transformer le lieu de travail en véritable expérience ?
Oui, parce que finalement, on a encore dans un inconscient collectif l'image de les bureaux, c'est une salle de réunion, un bureau individuel et une cafétéria. En fait, c'est pas du tout ça. Il y a cette révolution, et vous allez me pardonner le jargon, mais on parle de activity-based working, c'est-à-dire...
Nos auditeurs vont nous tuer.
Je le traduis, c'est d'avoir des espaces qui sont imaginés en fonction des situations, en fonction des activités. Au cours d'une journée, on a dans un bureau environ 15 activités différentes. Et pour ça, eh bien, il faut les réimaginer. Il faut imaginer, par exemple, quand on sort d'une réunion, qu'est-ce qu'on fait ? On débrief. Donc, il faut un espace qu'on peut appeler de landing, d'atterrissage, pour pouvoir échanger de l'information nécessaire, politique, conviviale. Et si on n'a pas cet espace, on ne le fait pas. C'est un exemple. Et pour aller un cran plus loin, dans cette étude qu'on a réalisée, eh bien, on s'aperçoit que le besoin de, entre guillemets, nouveaux espaces, eh bien, serait aujourd'hui d'environ 50% de la surface totale, c'est-à-dire des espaces de collaboration, des espaces de réinvention, des espaces de convivialité, de gestion de crise. On a besoin d'étendre la gamme des espaces disponibles et ça nous fait du bien en plus.
Donc c'est de mettre du mobilier sur des roulettes pour que le fait de déplacer l'organisation de l'espace, ça ne soit plus un événement en soi, mais juste une passade entre une réunion et un moment où on travaille derrière son bureau.
Alors, j'ai l'impression que vous dites ça pour me challenger, parce que ce dont il s'agit, c'est évidemment du mobilier mobile, par définition, mais c'est plus fondamentalement des espaces qui sont pensés pour un usage ou pour de multiples usages. C'est interroger dans l'activité que je suis en train de réaliser, est-ce que mon employeur me fournit l'endroit où je peux le faire, c'est-à-dire une cellule pour m'absorber, un endroit pour me reposer, une table haute pour rapidement, à 3 ou 4, être en ultra collaboration. Et ça... Je vais aller un peu loin en disant qu'on pourrait presque parler de science de l'aménagement. Et pour le faire, on a besoin d'être accompagné au sens où il faut d'abord commencer par écouter exactement les individus, de quoi ils ont besoin pour travailler, leurs activités, et en fonction de ça, faire du zoning. On parle de macro-zoning de l'aménagement et du micro-zoning pour mélanger du concret, de l'écoute émotionnelle et finalement un aménagement qui est conforme à adéquat aux besoins des gens, tout ouais. simplement.
Alexandre Jost, on va terminer en disant un mot de la numérisation du travail. À quel point est-ce que ça peut jouer un rôle aussi pour voilà attirer à nouveau en présentiel les salariés? Est-ce que développer une application en interne aujourd'hui, quels sont les outils qui peuvent être déployés?
Y a une blague qui circulait sur le web il y a quelques années, qui était la pyramide de Maslow. On voyait le bas, c'était Wi-Fi. Plutôt que l'air et l'oxygène. Donc déjà, du digital qui marche, premièrement. Deuxièmement, qui est intuitif, qui est inclusif. Pas besoin d'avoir de difficultés pour se connecter. Et puis plus loin, on parle d'espace serviciel, d'espace augmenté, avec des applications, des services qui changent l'expérience. Et on peut aller jusqu'à le ludifier, le gamifier, pour ceux qui sont nés dans les années 80 ou pas loin, des univers de type Zelda, où on voit son personnage sous forme d'avatar, et on indique aux autres où on se trouve. Et tout ça, c'est au service de la convivialité, parce que ce qui fait qu'on est heureux et productif dans des espaces de travail, c'est le fait de pouvoir se croiser, de s'y retrouver, de créer des liens. Et voilà.
Et ça vient justifier le déplacement que l'on doit faire aujourd'hui jusqu'au lieu de travail des collaborateurs. Merci beaucoup Alexandre Jost.
Merci
de la Fabrique Spinoza d'être venu nous apporter vos éclairages sur l'aménagement des nouveaux bureaux et du bureau du futur. On en reparlera. À bientôt. Midi 43 sur BFM Business. C'est l'heure de recruter. Et la chronique LinkedIn, tout d'abord, comme tous les vendredis, avec Mehdi Ramdani de LinkedIn Actualité. Aujourd'hui, on a demandé Mehdi sur LinkedIn ce qu'il pensait de la semaine de 4 jours. Quels sont les résultats?
Oui, alors les résultats sont sans appel.
Est-ce qu'on vous entend, Mehdi? Mehdi, j'ai l'impression qu'on a... Excusez-moi, j'ai l'impression qu'on a un souci de son avec vous. Vous êtes avec nous, Mehdi? Alors, on va faire une pause pub et puis on vous retrouve dans un instant, Mehdi. À tout de suite.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
On a retrouvé la connexion avec Mehdi Ramdani, LinkedIn Actualité et BFM Business. On sonde la communauté LinkedIn. Aujourd'hui, on leur a demandé ce qu'ils pensaient de la semaine de 4 jours. Mehdi, les résultats sont sans appel.
Oui, bonjour Thomas, absolument. Alors sur 9000 personnes qui ont répondu à notre question, près de 90% se disent prêts à concentrer leur travail sur 4 jours pour gagner une journée de repos par semaine. Le principal avantage évoqué par les membres, c'est le fait d'avoir plus de temps pour soi et ses proches, et le tout sans perte de productivité. Pour Fleur, qui travaille dans le recrutement par exemple, la semaine de 4 jours permet d'avoir un réel équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Travailler, c'est très bien, mais il faut aussi pouvoir avoir du temps pour soi, souligne-t-elle. Alors les journées sont parfois éreintantes, ajoute Amélie, qui a testé, elle, la semaine de 4 jours au Canada. Mais quel plaisir, nous dit-elle, d'avoir une journée pour les activités personnelles. Je ressentais également une meilleure implication dans mon travail. Voilà ce qu'elle nous dit. En fait, si la semaine de 4 jours est largement plébiscitée par les membres de LinkedIn, elle a aussi ses détracteurs. Par exemple, Rodolphe, qui est aujourd'hui retraité, qui a testé la semaine de 4 jours et il en est revenu. Au final, nous dit-il, c'est au détriment de la qualité du travail. Par ailleurs, en fin de semaine, on est plus fatigué et on profite moins du week-end. D'autres, comme Hélène, chef d'entreprise, ne voient tout simplement pas comment ils pourraient ajouter des heures à des journées qui sont déjà bien remplies. Le risque, c'est encore plus de stress et de pression pour boucler ces dossiers en un temps record. C'est d'ailleurs un argument qui revient très souvent, la semaine de 4 jours, oui, mais pas avec une même charge de travail. Ainsi, pour Brieux, qui travaille dans l'informatique, cela n'a pas de sens de condenser le travail, il faut le réduire. La solution que lui propose, c'est de passer des 35 heures aux 32 heures sans perte de salaire et recruter davantage.
Merci Mehdi Ramdani, LinkedIn Actualité, les questions qu'on vous pose tous les vendredis sur la semaine de 4 jours. Midi 48, c'est l'heure de recruter sur BFM Business. Avec nous, vous le savez, tous les vendredis, c'est nos métiers insolites, nos secteurs méconnus qui recrutent, forment, rémunèrent, parfois très bien. La filière de la chaudronnerie cherche ses futurs talents. Il y a 2000 chaudronniers diplômés par an, alors que la profession en attend 5000. Bonjour Yolande Bufquin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, secrétaire général du syndicat de la chaudronnerie, tuyauterie, tôlerie et maintenance industrielle. D'abord, on va poser une question qui peut vous paraître évidente, mais ça l'est moins pour nos auditeurs. Est-ce qu'un chaudronnier fabrique des chaudrons?
Alors, historiquement, peut-être, il y a très très longtemps. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus large et beaucoup plus ouvert que ça. Un chaudronnier, il fabrique tous les équipements qui vont rentrer dans les équipements pour l'industrie et qui sont nécessaires aujourd'hui dans toutes les activités.
Oui, en quoi c'est indispensable aujourd'hui? Dans quel secteur?
Alors, dans quel secteur? Si je vais vous parler de secteurs très très tendance, qui parle beaucoup en ce moment, l'hydrogène. Le futur de cet hydrogène va passer par des réservoirs de stockage notamment. Ben, les réservoirs de stockage sont fabriqués par des chaudronniers. Et après, cet hydrogène, ben, il doit être alimenté, il doit circuler. Pour ça, il doit circuler dans la tuyauterie industrielle. Toute la tuyauterie industrielle sont faites notamment par nos industriels.
Chaudronnier, soudeur, tuyauteur, aujourd'hui, c'est des métiers clés quand on parle de réindustrialisation post-Covid voulue par le gouvernement.
Exactement, exactement. Et c'est pour ça qu'effectivement, on essaye de beaucoup travailler sur cette attractivité des métiers. Et donc, on dit aujourd'hui, il y a vraiment un besoin essentiel à la réindustrialisation parce qu'aujourd'hui, sans ces métiers-là, l'industrialisation ne pourra pas se faire.
Selon vous, aujourd'hui, c'est quoi qui pourrait donner envie, en tout cas, d'y aller? C'est une question d'attractivité. De difficultés, de salaire peut-être?
Alors, pas de salaire, parce qu'effectivement, c'est des métiers qui sont très bien rémunérés, comme tous métiers qui sont recherchés, et c'est le cas aujourd'hui pour nos industriels. Par contre, effectivement, on manque peut-être certainement un petit peu d'attractivité, même si on a beaucoup travaillé sur cette communication. On parle de plus en plus de ces métiers. Je pense qu'aujourd'hui, pas un jour se passe sans que dans les médias, on parle de la chaudronnerie, de la tuyauterie, des soudeurs qui sont très recherchés. Donc voilà, il faut que le temps se passe et que la tendance s'inverse, ce qui est le cas quand même depuis quelques années.
Ça s'inverse. 5000 postes à pourvoir tous métiers confondus. Vous avez des exemples peut-être à nous donner d'entreprises ou de métiers aujourd'hui?
Alors, d'entreprises, je ne vais pas en citer parce qu'effectivement, moi, je les représente et je représente tous ces industriels en France et ils m'en voudraient d'en citer certains plus que d'autres. Par contre, effectivement, dans les domaines, bah, comme je vous le disais, notamment les futurs domaines de l'hydrogène, dans le domaine du nucléaire, dans le domaine de l'agroalimentaire, on parle beaucoup aujourd'hui de pénurie, notamment alimentaire. L'agroalimentaire a beaucoup de besoins en chaudronnier, en tuyauterie. On a également tous les domaines de la pharmacie. On en a parlé il y a quelques temps avec cette crise du Covid et les besoins de la pharmacie pour produire leurs médicaments. Voilà tous les domaines dans lesquels nos industriels travaillent aujourd'hui et sur lesquels on recherche beaucoup de jeunes.
Des industriels que vous représentez au secrétaire, au syndicat de la chaudronnerie, tuyauterie, tôlerie et maintenance industrielle. Pour vous joindre, on va sur votre site, vous pouvez aiguiller.
Exactement. Donc on a un site dédié pour les jeunes, justement, pour qu'ils retrouvent tous nos métiers, qu'ils sachent dans quel domaine ils vont pouvoir l'exercer. Donc c'est un site qui s'appelle métieravenir.com et là ils vont retrouver tous les métiers, toutes les spécificités et donc ils vont retrouver un certain nombre d'éléments et notamment ils vont retrouver également toutes les écoles en France qui forment à ces métiers.
Merci beaucoup Yolande Bufquin. On mettra bien sûr sur notre site, notre compte LinkedIn également les liens pour retrouver justement où postuler. Syndicat de la chaudronnerie, tuyauterie, tôlerie et maintenance industrielle. Merci d'être venu dans BFM Business avec vous. Je vous rappelle les modalités pour nous contacter, nous poser vos questions. Vous pouvez nous écrire à l'adresse mail avec vous @bfmbusiness.fr, le hashtag BFM Business avec vous pour interagir sur les réseaux sociaux bfmbusiness.com. Vous avez également le Facebook en direct pour réagir. Tout cela, c'est totalement gratuit. Un deuxième recruteur est avec nous à distance aujourd'hui. Arthur Capon, bonjour.
Bonjour.
Vous nous entendez bien, président cofondateur de la brigade de Véro, parce que vous êtes à Montpellier, c'est pour ça que vous êtes à distance. C'est la success story de l'Occitanie. Vous faites de la livraison de repas à distance. Racontez-nous.
Alors en l'occurrence là je suis en Bretagne parce que je suis en vacances mais normalement oui on est basé à Montpellier et en fait ça fait à peu près 5 ans et demi qu'on s'est lancé, on fait des plats pour les gens qui veulent perdre du poids et c'est une aventure absolument incroyable parce qu'on grandit à toute vitesse depuis à peu près 5 ans et demi maintenant.
Un secteur qui marche bien, qui se développe, qui est en croissance. Pourquoi je parle à vous et pas à votre mère? J'imagine Véronique, ça doit être elle qui devait cuisiner à l'origine du projet.
Alors, je crois qu'elle est invitée très, très bientôt sur votre chaîne, justement. En fait, la vraie raison, c'est parce que je suis PDG de l'entreprise et que ma mère est directrice générale avec une autre personne. Donc, c'est pour ça.
Aujourd'hui, c'est encore Véronique qui cuisine, puisqu'il faut le raconter à nos auditeurs. Elle est diététicienne, en tout cas, elle a un CAP cuisine, il me semble, et elle cuisinait des repas qu'elle s'est mis à vendre autour d'elle. Et vous vous êtes dit, faisons profiter plus de personnes de ces repas qui permettent aujourd'hui d'avoir une alimentation équilibrée.
Alors, en l'occurrence, c'est plus elle qui cuisine, puisqu'on cuisine à environ entre 25 et 30 000 plats par semaine. Ça sera un petit peu compliqué. Donc, on a toute une équipe de cuisine qui travaille justement pour cuisiner ces plats. Au-delà de ça, ma mère a fait, à 57 ans, elle a fait un CAP de cuisine parce qu'elle voulait justement travailler dans la cuisine. Elle ne savait pas encore pourquoi. Et au fur et à mesure, cette idée s'est faite. Et puis, on s'est entouré de diététiciens justement qui nous ont aidés, et nutritionnistes d'ailleurs, qui nous ont aidés à créer ses menus et créer ses recettes. Donc c'est à partir de là que tout a commencé à prendre forme. En fait.
Et donc pour poursuivre justement votre croissance, aujourd'hui vous recrutez, quels sont les postes sur lesquels vous avez le plus de besoins dans l'immédiat?
Alors pour le coup, déjà on a un community manager qu'on va s'apprêter à chercher pour début d'année prochaine. Donc ça c'est le premier poste à pourvoir. Il y en a 6 au total je pense. Après il y a pas mal de postes en cuisine. Évidemment. Mm-hmm. Il y a des postes tout simplement sur de la préparation de commandes, puisqu'on prépare toutes les barquettes et toutes les boxes directement en interne. Et ensuite, un chef de cuisine, si jamais il y a quelqu'un qui nous regarde et qui est intéressé.
6 postes ouverts à la brigade de Véro pour postuler. Eh bien, on écrit de la part de BFM Business à l'adresse suivante, nouveaubrigadier@labrigadedevero.com, tout attaché, bien sûr. Vous retrouvez ce lien-là sur nos réseaux sociaux, notre compte LinkedIn, notre page web et notre Twitter BFM Business. Merci beaucoup, Arthur Capon, d'être venu avec
plaisir.
Nous. Merci et à bientôt. Vous nous tenez au courant si vous recrutez. BFM Business avec vous et 60 minutes business, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve lundi avec Sandra Gondouin, Lorraine Goumeau. D'ici là, bon week-end sur BFM Business.
60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business.